Vous avez eu un endroit, un moment mythique qui a profondément marqué, là je dérape dans un autre domaine, qui a marqué l'intelligence et la sensibilité des jeunes gens de l'époque. Alors les jeunes gens de l'époque qui habitaient le quartier, c'était Victor Hugo qui a habité juste au niveau de la porte d'entrée de l'école. C'était Mérimée qui habitait donc dans l'école, parce que c'était le fils du secrétaire perpétuel. C'était Stendhal qui habitait rue Jacob. C'était Michelet qui habitait à côté, etc. Donc ces gens-là ont vu un musée inouï et ils l'ont vu disparaître. Donc ça, en gros, le sentiment historique en France, le roman historique français sort de là. Mais ils le disent, hein, c'est pas une invention, ils le disent. Surtout Michelet le dit mieux que les autres. Ils ont compris ici ce que c'était que le sentiment historique. Notre-Dame de Paris, ça a été conçu ici. Des œuvres comme ça a été conçu ici. Donc là, on bascule dans l'histoire littéraire. Et en gros, ça a été assez vrai. Ils sont venus pendant très longtemps. Et puis après, Baudelaire est venu après. Mais enfin, après, il y en a d'autres qui sont venus. Donc vous voyez à peu près ce qui s'est passé. Bon, alors ce qui s'est passé, c'est donc, pour Paris, c'est un lieu littéraire. C'est un lieu donc mythique, le musée, un lieu muséal. C'est un lieu de sauvetage des œuvres d'art. C'est pour ça que vous trouverez un peu partout. Ça a servi un peu de musée lapidaire. C'est-à-dire quand un immeuble était menacé à Paris, souvent quand on ne pouvait pas le sauver au XIXe siècle, on le mettait ici. Donc il y a quelques fois dans l'école, vous verrez des ruines que vous pouvez croire être du musée des monuments français. Ce n'est pas du musée des monuments français, c'est des choses qui étaient détruites à ce moment-là et qu'on a préféré mettre ici. Donc tout ça, ça relève de l'histoire. Ça s'est même répandu sur le reste du monde, parce que par exemple, à New York, il y a une partie d'un musée qui s'appelle les cloisters. C'est-à-dire, c'est des cloîtres français qui ont été transportés aux États-Unis. Mais l'idée est venue d'ici. C'était un élève d'ici qui a acheté des cloîtres français et qui a essayé de faire aux États-Unis la même chose qu'ici. Donc il se trouvait dans le monde entier des souvenirs de ça. Alors, ça, c'est une deuxième chose. Alors, c'est donc ici qu'on a construit une nouvelle architecture. C'est-à-dire l'architecture dite romantique, hein, on peut dire comme ça, que dans beaucoup de pays, on appelle l'architecture Beaux-Arts, en prononçant avec l'accent américain, c'est celle qui a servi de modèle au monde entier pendant 100 ans, à peu près. Jusqu'à la guerre de 14, tous les architectes américains étaient formés en France. Les architectes français, c'est d'abord des architectes de la Révolution, enfin, pas de la Révolution, mais des architectes, disons, maçonniques, hein, enfin, Ledoux, si vous voulez, bon, des choses comme ça. Ça, c'est le modèle qui a servi à construire Washington, une architecture républicaine, maçonnique.
Néoclassique ?
Oui, néoclassique, oui. Mais aux États-Unis, c'est caricatural, puisque en gros, tous les capitoles des 51 États, ou je ne sais pas combien, sauf un, le Nouveau-Mexique, qui est d'influence espagnole, sont sur le modèle architecture à la française, c'est-à-dire du néoclassicisme gréco-français. Donc ça, c'est le moment où l'architecture française était nettement était une architecture grecque à signification profondément républicaine, quoi. C'est maçonnique, si vous voulez, puisque la plupart étaient francs-maçons. Donc le plan de Washington, c'est typiquement un plan fait par un architecte français qui était élève, d'ailleurs, enfin ici, à l'époque, c'était au Louvre. Après, quand est arrivé Duban, ça c'est un peu compliqué, parce que le génie des architectes du 19e siècle qui ont gardé l'amour de la Grèce et de Rome, c'est-à-dire qu'ils étaient envoyés à Rome, mais très vite, ils ont demandé à aller en Grèce aussi, voire plus loin, c'est-à-dire en Syrie, etc. C'est nous qui avons les plus beaux dessins de Palmyre, hein, puisqu'il y a un architecte de l'école qui est allé à Palmyre, évidemment, qui l'a dessiné avant les destructions il y a deux ans à peu près. Bon, alors, eux, ils y ont ajouté quelque chose au 19e siècle, ils y ont ajouté des qualités, comment on peut dire, picturales inouïes. C'est-à-dire qu'ils dessinaient admirablement, et en particulier quand ils regardaient une œuvre, il la voyait bien avec la signification politico-néoclassique, si vous voulez, mais il voyait aussi comment elle avait vécu dans le passé. Ce qui fait qu'on a d'admirables dessins. Ils avaient souvent à faire ça. Imaginez le temple de Palmyre ou de Baalbek ou l'Acropole, telle qu'elle a été avant. Donc ça donne des dessins admirables avec l'état actuel et l'état restauré, l'état ancien. Donc c'est ça les plus belles œuvres. Il se trouve qu'en gros, Paris a été construit comme ça. Enfin, la cour vitrée, ici, c'est évident. La cour vitrée, elle est faite à la façon romaine. On dirait c'est les couleurs de Pompéi. Bon, mais tandis que le reste de Paris, quand vous allez le plus beau monument, c'est à Charenton. C'est-à-dire quand vous allez à l'asile de Charenton, il y a un petit temple grec qui a exactement les proportions de... Si un jour, il faut toujours y aller le dimanche. Hein, les fous sont moins fous le dimanche. Mais à part ça, la Madeleine, enfin, tous ces édifices, c'est ça. C'est comment on a adapté le culte de l'antique en néoclassique aux rues de Paris. Quand on leur donnait une cabane à construire, ils voyaient l'Acropole. Hein. Il y a une espèce de volonté de monument inouï. Mais en même temps, ça s'intègre toujours Non, l'architecture parisienne, ça n'est jamais monumental comme l'architecture allemande de la même époque. En gros, ils arrivent à l'intégrer dans les rues de Paris, à en faire quelque chose. Et puis après, il y a eu les constructions. Après, il y a eu les alignements dans les rues de Paris. Il y a eu l'ordre haussmannien, c'est-à-dire la largeur des rues qui correspondait à une certaine hauteur d'arbre, ce qui fait que, avant, je ne le disais pas, avant d'être conservateur, parce que je suis né à Paris, mais quand je vois mes collègues qui débarquent de New York ou dans des villes comme ça, à Paris, c'est réellement une ville où on aime marcher. Ça n'a rien à voir avec les autres villes. Même Florence, qui est bien plus beau, si on veut, plus belle, c'est une ville musée. Tandis qu'à Paris, vraiment, c'est à la hauteur de l'homme. Oui, puis c'est à la hauteur de l'homme. On a l'impression qu'à chaque fois, l'homme a construit une idée, a voulu respecter les générations précédentes. Ça s'est fait, oui, ça s'est fait progressivement. C'est-à-dire que les lois de Haussmann sont en gros des adaptations des préfets précédents, c'est-à-dire le Chabrol et autres. Les premiers alignements, c'est la rue de Rivoli, qui est conçue dès Napoléon. Napoléon avait déjà en tête le système. Bon, Napoléon n'a régné que 15 ans. Il faut dire, mais Napoléon, je ne suis pas spécialement bonapartiste, mais il avait, alors qu'il ne s'intéressait pas beaucoup à l'art, mais il avait un sens politique inouï. C'est-à-dire que quand il voyait une ville, quand il voyait quelque chose, il essayait de la concevoir en fonction de ça. Ce qui fait que les travaux, le peu de temps qu'a passé Napoléon à Rome, mais c'est inouï. Les restaurations qui ont été faites après à Rome pendant 100 ans, c'est simplement la suite des projets du préfet de Napoléon. Alors vous pensez encore plus à Paris. Bon, il se trouve qu'il n'a pas pu construire son grand morceau, c'était le palais du roi de Rome, qui était à peu près sur la colline de Chaillot, qui était de Percier et Fontaine, dont on a ici les dessins. C'est absolument magnifique, et ça n'a pas pu être fait, parce qu'évidemment, il a régné trop peu de temps. L'architecture Beaux-Arts, c'est celle de l'école des Beaux-Arts, c'est une architecture qui joue sur les souvenirs italiens et qui la met à la dimension des villes occidentales, hein, qui la met à la dimension humaine. C'est-à-dire, le Metropolitan Museum, c'est l'œuvre d'un architecte formé à Paris qui imite l'école des Beaux-Arts. Mais le meilleur exemple, c'est la façade de l'école des Beaux-Arts. C'est une façade d'une parfaite noblesse. Malheureusement, elle a été détruite. Enfin, pas, la façade n'a pas été détruite, mais la construction a été détruite parce que devant, il devrait y avoir l'arc de Gaillon, donc un arc Renaissance qui indiquait comment on passait à l'époque successive. C'est une architecture profondément historiciste.